Se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Des Passages, pour ceux qui y entrent pour la première fois, et heureux de vous retrouver pour toutes celles et tous ceux qui habitent dans ces drôles d'endroits que sont les passages. C'est No Man's Land qui n'appartiennent à personne et donc à tout le monde. Ces lieux qui déjouent les frontières et les exclusions. Nous sommes dans le studio Gisèle Halimi de la radio web Esprit Occitanie, avec à la technique Léo.
Non valion sperate, minare bravate, che calia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova, che blanchi l'ardire.
Habiter les passages, c'est habiter des espaces limites de survie, entre insuffisamment, un seuil minimum, et un pas trop, un seuil maximum. C'est dans cet entre-deux que la vie s'est développée. C'est dans cet entre-deux que la vie a créé la biodiversité des espèces, jusqu'à créer l'espèce des hominidés. C'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui concerne l'écologie des passages. Nous allons voir que cette écologie est une véritable philosophie. Nous qui sommes devenus des adultes homo sapiens occidentaux, au risque de nous prétendre doublement sapiens, pour nous imaginer hommes modernes, nous avons été coupés de notre appartenance à la terre-nature. Il nous faudrait retrouver la sagesse des premiers sapiens, ceux qui, à partir du paléolithique récent, ont été les seuls à poursuivre l'histoire de l'humanisation. Cela passe par un retour dans cet habitat de l'entre-deux. Entre suffisamment de survivance, sans trop de consommation, pour laisser de la place à l'existence. Alors aujourd'hui, je vous invite à aller à la rencontre de deux hommes. Aller à leur rencontre à travers leurs écrits. Chacun d'eux, à leur manière, dérange les pensées dominantes et c'est à leur prise de position qu'on les reconnaît comme étant des passages. Si leurs pensées sont critiquables, c'est au sens noble de la critique. Partager avec vous ces deux livres trace le chemin d'une écologie pour les passages. L'éloge du suffisant d'André Gorce et les trois écologies de Félix Guattari. Ces trois écologies définissent l'écosophie, une philosophie pour ces trois écologies, celle de l'environnement, celle du social et celle du mental. À 84 ans, André Gorce, avec sa compagne Dorine, atteinte d'une maladie incurable, choisissent ensemble leur fin de vie. Pour ce penseur de la transition, et donc penseur des passages, ce n'est pas un geste de désespoir ou de résignation. Bien au contraire, il nous livre un message essentiel. Celui de l'urgence d'avoir prise sur notre existence, de lui donner sens, d'ouvrir des espaces de liberté et de création en marge des structures aliénantes. Pouvoir choisir son passage dans un ailleurs. André Gorce témoigne d'un cheminement qu'on ne saurait lui reprocher, un savoir vécu au sein de son époque. Né en 1923 à Vienne, d'un père juif et d'une mère catholique, il a 16 ans en 1939 quand il s'enfuit dans un lycée suisse pour échapper au service militaire. Débute alors pour lui la prise de conscience que le propre de la condition humaine réside dans la tension entre survivance et existence, entre l'inné et l'acquis, entre l'instant présent du kairos, qu'on appelle immanence, et le besoin de transcender le chronos, le temps qui n'en finit pas de passer. S'accomplir, c'est continuellement se transformer à l'intérieur de cette tension située dans l'espace-temps. Comment réapprendre à vivre dans cet espace qui nous décolle du tout et du rien, qui pourrait nous permettre de ne plus nous opposer les uns aux autres, car personne détient la vérité, et personne n'a tort quand il s'agit des éprouvés. C'est un enjeu pour l'avenir de nos humanisations, car c'est un enjeu pour le vivre ensemble avec nos différences. Mais pour que cet espace existe, il requiert l'humanisation de la rencontre, celle de l'inconnu. Si nous, les adultes, nous voulons amener nos enfants aux rencontres qui dérangent, il nous faut d'abord réapprendre à habiter dans ces passages que sont les entre-deux. Quand l'enfant sera admis dans l'ouvert de l'espace, il découvrira que certains autres, en lien avec les choses, y séjournent déjà. Ainsi se développera pour lui la possibilité de son existence individuelle dans le monde, pour aller à la rencontre de l'altérité, de l'étranger, et entrer dans ce désir du vivre ensemble. Mais avant de se convaincre de la nécessité de ce retour vers notre terre nature, essayons de comprendre ce qui nous en avait sorti. De nombreux livres écrits par des spécialistes en anthropologie, s'accordent pour mettre le langage à l'origine de cette coupure. Parmi ces livres, il y a celui de Yuval Noah Harari, « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Il nous rappelle que la famille humaine a comporté plusieurs espèces. Les plus connues sont Homo habilis, Homo ergaster, l'homme artisan en Afrique, Homo erectus, l'homme dressé en Asie, Homo neanderthalensis en Europe et enfin Homo sapiens. Il ne reste aujourd'hui qu'une seule espèce. Homo sapiens est devenu l'homme moderne. Les autres espèces ont disparu pour des raisons qui font toujours débat. Homo sapiens serait-il coupable de crimes contre les autres humanités? L'Homo sapiens occidental se définissant sapiens, la culpabilité est-elle au-delà de nos couleurs de peau, du blanc le plus clair au noir le plus foncé? Tous, partageons-nous une certaine désolation quand une partie de notre espèce se drape dans son autosuffisance en se coupant des autres mondes? Cette désolation a des tonalités de saudade, cette émotion complexe où se mêlent mélancolie, nostalgie et espoir. Ce désir d'un ailleurs à réinventer que chante le fado et la morna du Cap-Vert, incarnée par Cesaria Évora.
Saudade, 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 diz minha terra sem enclau. coração também, quem mostrava esse caminho nós, quem mostrava esse caminho nós, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, 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 diz-me minha terra, San Inclán. Saudade, 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 diz-me minha terra, San Inclán. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán.
La distance qui nous sépare de nos cousins les Simiens, les Lémuriens et les Tarsiens peut paraître bien faible. Les primates sont des mammifères plantigrades. Leur cerveau est déjà très développé. Leurs membres supérieurs se terminent par une main avec un pouce toujours opposable. Fœtus, ils se développent grâce à un placenta dans la matrice de la femelle. Les hominiens ou hominidés commence avec les australopithèques, puis vient le genre homo, les hommes fossiles et actuels. Ce sont des primates non arboricoles qui vivent au sol. À part quand ils sont tout petits, ils ne marchent plus à quatre pattes. Ils sont dépourvus de queue et de callosité fessière. Leur pilosité va se réduire de plus en plus. Certains pensent même que l'homme, naissant prématuré, il n'atteint plus son développement terminal complet. L'homme moderne serait du point de vue corporel un fœtus de primate parvenu à maturité sexuelle. C'est la théorie de la néoténie, un processus de développement qui consiste dans la rétention à l'âge adulte de caractéristiques infantiles, voire même fœtales. Dans l'évolution des espèces, la néoténie fait apparaître des formes de vie peu spécialisées, susceptibles d'être à l'origine de groupes nouveaux et de créer une nouvelle espèce qui enrichit la biodiversité. La néoténie de l'espèce humaine lui aurait permis de développer des capacités d'adaptation à tous les milieux naturels, du plus chaud au plus froid. Entre le genre homo et les autres hominidés, c'est la distance psychologique qui va faire toute la différence. Prendre conscience de sa nudité, de sa fragilité et de la mort. À l'origine, tombant des arbres, il perd son habitat naturel. Il n'a plus de domicile fixe. Sa nudité et sa conscience de la mort l'empêchent d'habiter le temps. Son inaptitude à vivre l'espace du monde dans l'instant, le fameux kairos de la philosophie, il la sublime en prenant le temps et l'espace en otage. À la façon de l'ours, son premier terrier sera la grotte. Il en surcharge la surface des parois pour exister, rendre présent ce qui ne l'est plus et anticiper ce qui ne l'est pas encore. Parce qu'il a perdu la première nature, celle du monde minéral, du monde végétal et du monde animal, l'homme, par le langage des signes, s'en est créé une rien qu'à lui. C'est là que nous habitons. Non plus dans le territoire naturel, mais dans le territoire des signes purs, signes que nous ne cessons de produire, d'enchaîner et d'échanger entre nous. Certes, l'homme doit sa survie à sa capacité de langage et de parole. L'impulsivité primaire de l'instinct de survie est devenue réflexion dans le miroir de la psyché, au risque de développer l'angoisse somatique de l'angoisse ressentie et d'entrer dans la plainte la souffrance de souffrir, en accusant le monde et les autres. Cette transformation qui ouvre à la pulsion de penser amène à se figurer soi-même dans la représentation du monde. L'homo sapiens devient sapiens en se regardant dans les yeux de l'autre. L'autre, semblable et pourtant différent. C'est pour cela que le premier miroir de l'humanisation est pour le bébé les yeux de la mère qui le porte, puis les regards de sa famille. Mais de quelle famille s'agit-il ? Celle de son clan ? De sa tribu ? Ou s'agit-il d'une famille plus grande ? Pourtant, Homo sapiens sapiens appartient lui aussi à une famille. Mais il a longtemps préféré se croire à part des autres animaux, un orphelin sans famille, privé de frères et sœurs et de cousins, et surtout sans parents. Or, ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille, et une grande famille particulièrement tapageuse, celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans. Mais Homo sapiens sapiens a caché un secret encore plus dérangeant. Nous avions aussi jadis bon nombre de frères et sœurs. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme les seuls humains, parce qu'au cours des 10 000 dernières années, notre espèce a bel et bien été la seule dans les parages. Pourtant, le sens réel du mot « humain » est « animal » appartenant au genre homo. Césaria Evora chante « Apocalypse ». Pourquoi tant de méchanceté dans ce monde si nous n'y sommes que pour une seconde ? L'homme, dans sa malignité, ne respecte plus la nature. Notre vie est monopolisée par une minorité. Ne me demande pas de me taire. Je dis ma vérité.
Paquetón, maldad ni smut, no talizo pa un segundo. Paquetón, dinamizade, pa gerar infelicidade. Paquetón, angustia de guerra, no pode criar paz na terra, enjore pensar. Ontem cheio de malvadeza, sem respeito à natureza, meu Deus valeu. Tanto inventa planeta, tanto coitão a maneta, sem ser joana de gás. Monopólio de um cambada, é destino de nós vida. Cada hora uma notícia, cada minuto uma lícia. Desarmamento e conversa, ma banquete e vice-versa. E fartura não conta, e miséria não conta. Muita pior que jogo de boca, cabo mandando cala a boca. Dizer verdade, não te dá viver de voz da ameaça, não flagelo para a cobrança. Mundo podia ser outra coisa, vida podia ser cor-de-rosa. Se nós todos podíamos juntar-nos, podemos amor no coração. Mas a Bíblia está a falar.
Felicidade.
a paz na terra, chorei pensando. Onde está cheio de malvadeza, sem respeito à natureza, Deus bem. Onde inventa a planeta, onde foi tonto a maneta, sem seis horas de ar. Monopoldo, um cambada, é distinto de nós vida. Cada hora uma notícia, cada minuto uma malícia. Desarmamento é conversa, mas banquete é vice-versa. É fartura no ponta, é miséria no ponta. Muita pior com jogo de boca, acabou mandando cala a boca, está de ser vendado.
Nos concepções occidentales, à la recherche de la vérité vraie, sont guidés par la valeur accordée aux lumières. Pour autant, la langue de la transparence peut se retourner contre nous et nous déshumaniser. Les lumières chassent-elles les illusions de l'obscurité? Les cérémonies boréales de l'ombre ont fait le tour du cercle arctique dans les traditions de la tente sombre. Mais au néolithique, à la différence des grands prédateurs, notre espèce s'est hissée au sommet de la chaîne alimentaire. L'écosystème n'a pas eu le temps de s'ajuster. Dans la nature, la plupart de ces grands prédateurs sont des créatures animales majestueuses, pleines d'assurance, au pas sage et lent de celui qui a confiance. Le sapiens, lui, reste plein de peur et d'angoisse. Il porte en permanence la sensation d'une menace quant à sa position, ce qui le rend agité, tyrannique, cruel et dangereux pour les autres créatures. Que serait devenue l'histoire de l'humanité et les récits de la Genèse si différentes espèces d'hommes avaient cohabité? Peut-être qu'Adam, dont la pomme de l'arbre est restée en travers de sa gorge, arrêterait d'en cracher les pépins, nous dit Yuval Noah Harari. Sans frères et sœurs, sans cousins, il nous est plus facile de nous imaginer comme la quintessence de la création, séparée du reste du monde animal par un gouffre béant. Pourquoi les Néandertaliens, robustes, résistants au froid et malins, n'ont pu résister à notre colonisation ? Si le débat continue de faire rage, c'est que la réponse la plus probable est la chose même qui rend le débat possible. Le langage unique de Sapiens qui domine le monde. À partir des trois écologies, Félix Guattari, psychanalyste et philosophe, nous propose une nouvelle lecture de l'existence basé sur la complexité des émotions et des sentiments. Il a voué une grande partie de son existence à la psychothérapie institutionnelle au sein de la clinique de Laborde, fondée en 1953 par Jean Houry, dont il est très proche. C'est même à la clinique de Laborde qu'il meurt en 1992 à l'âge de 62 ans. Soucieux d'être en permanence en lien avec l'inventivité première de la psychanalyse, l'analyse de la psyché, il n'hésite pas à se mettre à la marge des différents courants psychanalytiques pour préserver sa liberté de penser. Il a appris que pour vivre sa subjectivité, sa sensibilité, il faut se défaire de tout idéal de scientificité. Sinon, il ne peut s'agir que d'émotions subordonnées à des valeurs préétablies par des modèles de représentation collective. Être dérangé, éprouver le malaise de l'étrangeté et l'incontournable de l'humanisation. Ces éprouvés ne se communiquent pas seulement par la parole. Ils ne sont pas figés dans une norme structurelle du langage. Bien au contraire, ils sont en devenir permanent. Et l'écologie mentale consiste à les exprimer dans une recherche éthique et esthétique plutôt que scientifique. En effet, parler pour donner de l'information utilise une communication formelle. De nombreuses espèces y ont recours, comme nous les Homo sapiens. Mais notre particularité à nous est d'avoir ensuite complexifié nos relations avec un langage intuitif, un langage qui utilise une communication informelle, la langue des ressentis, des sentiments. Elle n'est pas toujours la langue de l'entendable. Elle est celle du perceptible. La langue du cœur est souvent inaudible pour les oreilles. Alors, comme c'est la langue d'un possible, d'un probable, d'une hypothèse, on peut entendre ce qu'on a envie d'entendre. Toute interprétation est forcément souple, réversible, jamais stable. Si bien qu'on peut bavarder en permanence, palabrer des heures d'affilée, disserter sur les relations des uns et des autres, surtout des absents. Le sapiens d'aujourd'hui n'a rien perdu de son amour du commérage. On le retrouve dans les réseaux sociaux et les informations en continu. Les propagateurs de rumeurs sont à l'origine d'un pouvoir, celui de la manipulation et de la croyance. La caractéristique véritablement unique de notre langage de sapiens moderne, c'est la capacité de transmettre des informations sur des choses qui n'existent pas, ou du moins, qui n'existent que dans l'imaginaire d'un individu ou de quelques individus. Nous qui sommes le collectif, ayant besoin d'appartenance, nous y adhérons par croyance. C'est là qu'on aborde la question de l'écologie sociale. Et les chimpanzés aussi ont des instincts sociaux, à condition que le groupe ne soit pas trop grand, entre 20 et 50 individus. Au début, les groupes humains aussi n'étaient adaptés que pour de petites communautés d'intimes, la tribu. La recherche sociologique a montré que la taille naturelle maximale d'un groupe lié par un commérage positif est d'environ 150 individus. Ce groupe peut fonctionner sur la base de relations émotionnelles en lien avec le commérage et n'a besoin que d'un minimum de discipline formelle, les dominants étant les protecteurs des dominés. Le passage de ce seuil critique de 150 individus a largement été dépassé par Sapiens, pour finalement fonder des cités, puis des empires. Ce dépassement réside probablement dans l'apparition de la fiction. Un grand nombre d'individus peuvent coopérer avec succès en croyant à des mythes communs, créant un imaginaire collectif. Il en va ainsi des frontières attribuées à une nation, de la valeur monétaire des choses et des services, des lois, de la justice. D'ailleurs, les hommes d'affaires et les juristes modernes sont en fait de puissants sorciers. Entre eux et les chamans tribaux, la principale différence est que leurs histoires sont encore plus étranges. Les sociétés anonymes à responsabilité limitée, SARL, sont des entités juridiques sans corps. Au cours des derniers siècles, elles sont devenues les principaux acteurs de l'arène économique. Pour convaincre des millions de gens au bien fondé de ces structures fictives, il a suffi qu'elles produisent du profit et des biens matériels. Elles amènent des millions d'individus à travailler pour elles et à consommer tout en croyant à un vivre mieux puisque c'est ce que le groupe véhicule collectivement. En attendant, Félix Guattari alerte. Les réseaux de parenté tendent à être réduits au minimum. La vie conjugale et familiale se trouve fréquemment ossifiée par une sorte de standardisation des comportements. L'altérité tend à perdre toute aspérité. La sensibilité avec les mondes extérieurs se trouve ainsi compromise dans une sorte de mouvement général d'implosion et d'infantilisation régressive. Seule, une articulation entre les trois registres écologiques, celui de l'environnement, celui des réseaux sociaux et celui de la sensibilité humaine, peut nous protéger de tous les périls. Ceux du racisme, du fanatisme religieux, de l'exploitation du travail, de l'oppression des femmes et des enfants. Ce n'est qu'à cette condition que peuvent être générés et régénérés les univers imaginaires, qui ponctuent d'événements singuliers les histoires de vie individuelles et collectives. Cette révolution ne devra donc pas concerner uniquement les rapports de force visibles à grande échelle. Elle concerne aussi les domaines moléculaires de sensibilité, d'intelligence et de désir. La révolution doit devenir réévaluation de notre évolution d'Homo sapiens. Les oppositions dualistes traditionnelles sont révolues, mais les conflictualités demeurent. Elles engagent des systèmes multipolaires. On ne peut plus opposer l'objet au sujet, le corps à l'esprit. D'ailleurs, plutôt que de sujet, Félix Guattari propose de parler de différentes sensibilités, chacune travaillant plus ou moins pour leur propre compte. Ainsi, l'intériorité s'instaure-t-elle au carrefour de multiples composantes relativement autonomes les unes par rapport aux autres. Et, le cas échéant, elles peuvent être franchement discordantes, disharmoniques. Pour élever la philosophie au rang de l'écosophie, il faut penser l'écosophie sociale et l'écosophie mentale. L'écosophie sociale, c'est reconstruire l'ensemble des modalités de l'être en groupe, du vivre ensemble, dès l'école. Cela nécessite une véritable écosophie de la parentalité, grâce à une nouvelle écologie mentale pour nous les adultes. L'écosophie mentale, c'est réinventer le rapport au corps, aux fantasmes, au temps qui passe, au mystère de la vie et de la mort. Réinventer et régénérer les processus de sublimation dans la créativité de l'imaginaire pour redonner à l'altérité toute son aspérité, toute sa rugosité face à la mort. La mer est la demeure de la nostalgie. Par le soleil couchant d'une fin d'après-midi, je marchais sur la plage. La nostalgie m'a assailli et j'ai pleuré. La nostalgie nous sépare de notre mère et de nos proches. Elle nous emmène vers la terre lointaine, sans savoir si on les reverra un jour.
Non tardigna, na cambar di sol, mi tanda, na praia di natasque. Lembrar praia de Furna, saudade frontal chorar. Num tardinha, na cambar de sol, me tandar na praia de Natasque. Lembrar praia de Furna, saudade, frontal chorar. Mare morada de saudade, ele tá separando pra terra longe, ele tá separando de nós mais nós amigos. Sem certeza de tornar a encontrar. morada de saudade. Está separando pra terra longe. Está separando de nós mais nós amigos. Sem certeza de tornar encontrar. Pensar na minha vida me sou sem ninguém de fé perto de mim. Panto já que as ondas tás quebrado de mansinho, tá trazendo um ar de sentimento. Pensar na minha vida me sou sem ninguém de fé perto de mim. Panto já que as ondas tás quebrado de mansinho, tá trazendo um ar de sentimento. Mar é morada de saudade. Ele tá separando pra terra longe. Ele tá separando de nós mais nós amigos. Sem certeza de tornar encontrar. Mar é morada de saudade. Ele tá separando pra terra longe. Ele tá separando de nós mais nós amigos. Sem certeza de tornar encontrar.
Cette émotion complexe qu'est la saudade, là où se mêlent mélancolie, nostalgie et espoir, vous donne ce désir d'un ailleurs à réinventer. Vous donne ce désir de suivre le chemin qui nous transforme à la rencontre de l'étranger, à la rencontre des étranges qui dérangent. En attendant, je vous dis à bientôt dans les passages.
Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.